Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ces derniers mois, peut-être encore davantage qu'auparavant dans nos vies, de nombreuses habitudes ont été bouleversées en raison des changements liés à la crise sanitaire. Bien sûr, les restrictions de sortie, les changements en matière de travail ont été très variables en fonction de la ville et même du pays où nous vivons. Mais y compris dans des zones où le confinement n'était pas décrété, eh bien un certain nombre de choses ont changé. Et pour ces modifications, elles ont pu avoir un impact sur notre activité physique comme sur notre alimentation. Alors on peut chercher à comprendre ce qui s'est passé, identifier ce qui peut éventuellement poser problème, ce que l'on voudrait peut-être retrouver, choisir une alimentation adaptée à son organisme, à ses besoins, indication pour bien manger, bien sûr, mais aussi pour bien bouger. L'activité physique, autre pilier de la prévention en matière de santé, comprendre quel sport est bon pour nous, pour le corps, pour le moral, quand le faire, quel bienfait en attendre. Questions pratiques, réponses concrètes. Sport et nutrition, c'est notre programme du jour dans Priorité Santé. Émission en compagnie de nos deux chroniqueurs en direct avec nous au téléphone, le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo et depuis quelques mois coach pour nos auditeurs le lundi dans Priorité Santé. Et tout à l'heure, on va retrouver Stéphane Besançon dans une petite dizaine de minutes, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Avec lui, bien sûr, on va répondre à toutes les questions qui concernent l'alimentation, la nutrition, la diététique. Et pour poser vos questions, la page Facebook de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Ces deux piliers de la prévention en santé, activité physique, alimentation, à la portée de tous, chacun peut agir sur ces deux dossiers très importants du quotidien, prévenir les maladies chroniques, lutter contre la fatigue, se relaxer. Et au cœur de la crise sanitaire, on a concentré l'attention sur la prise en charge des personnes directement concernées par le virus, le coronavirus ou ses complications. Mais c'est évidemment tout le secteur de la santé qui a subi des conséquences puisque beaucoup d'entre nous ont changé beaucoup d'habitudes du quotidien. Docteur Jean-Marc Sen, c'est vrai que sur le plan de l'activité physique, là aussi, beaucoup de choses ont changé. Cours de sport suspendus, salles de gym fermées, pour certains confinements, impossibilité de sortir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à évaluer l'impact de ces bouleversements, parfois de cette sédentarité forcée sur le corps?
Et oui, on se trouve dans une situation tout à fait paradoxale. Ça fait des années évidemment qu'on explique qu'il faut bouger parce que l'activité physique est indéterminante pour la santé. Et là, le fait d'être finalement bloqué à ne plus pouvoir bouger de manière forcée, eh bien évidemment ça a des conséquences. Alors ça a des conséquences évidemment parce que on reste dans des positions prolongées, beaucoup plus statiques, et ça évidemment ça va réveiller des douleurs physiques. On sait que certains muscles qui ne vont plus fonctionner correctement, eh bien vont se mettre en contracture. Alors ça peut être les muscles du cou avec des douleurs cervicales, les trapèzes qui peuvent être tendus, ça peut être des douleurs lombaires qui peuvent revenir. Donc ça, ce sont des éléments véritablement de l'appareil locomoteur qui peuvent être vraiment atteints. Tout ça en plus c'est dans un contexte bien sûr anxiogène, on a envie de dire, en tout cas qui stresse, et donc ça favorise évidemment les douleurs. Et puis sur le plan métabolique, le fait de ne plus bouger sur le plan métabolique a aussi une incidence. Alors, on sait, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2017 par des chercheurs de l'Université de Liverpool et qui ont montré que lorsqu'il suffisait de 2 semaines d'inactivité, ils ont mis des personnes de manière artificielle en inactivité pendant 2 semaines, et ils se sont rendus compte que les facteurs de risque comme des maladies chroniques comme le diabète apparaissaient au bout déjà de 2 semaines. La prise de poids, évidemment, va être aussi quelque chose qui va se modifier. Donc en fait, le fait de ne plus bouger a un véritable impact métabolique, mais aussi sur l'appareil locomoteur, donc sur le fonctionnement global de notre organisme, extrêmement important.
Et docteur Sen, on peut d'ailleurs renvoyer les auditeurs sur toutes les séances d'activité en temps réel que vous nous avez proposées au cours des derniers mois, notamment de la période de confinement en France, pour lutter contre les effets néfastes de cet arrêt de l'activité sportive ou simplement de l'activité physique, ces séances qu'on retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Premier message d'une auditrice, hein, message enregistré directement en lien avec ce que l'on vient d'évoquer. Auditrice en ligne du Sénégal, de Dakar, cette Odom, on l'écoute tout de suite.
Bonjour Caroline, bonjour également aux invités. Je m'appelle Odom, j'ai 40 ans et je vis à Dakar. Avant le confinement, j'avais une pratique sportive de 6 jours sur 7 à raison d'une heure par séance. Alors pendant le confinement, qui a duré 4 mois relativement à Dakar, au Sénégal en général, donc depuis mars, j'ai pris quelques kilos et je voudrais les perdre. Alors je voudrais savoir, première question, quel type d'alimentation me proposent les spécialistes pour perdre les kilos accumulés durant le confinement sans perdre de masse osseuse? La deuxième question est de savoir si le port du masque est recommandé durant l'activité physique. Je voudrais préciser que pour accéder à la salle de sport à laquelle je vais, il nous a été recommandé, par rapport à la crise sanitaire, de porter le masque durant l'activité physique. Mais on ne couvre que la bouche. Alors ma question est de savoir si à partir du moment où on ne couvre que la bouche, est-ce que le masque protège-t-il encore réellement? Merci encore.
Alors, deux choses complètement différentes. On va prendre la première partie de la question d'Odom, qui souhaite donc retrouver son allure d'avant le confinement. Ça veut dire simplement aussi perdre quelques kilos. Elle parlait de masse osseuse, mais je pense qu'elle voulait peut-être parler davantage de masse musculaire. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut se restreindre d'un point de vue alimentaire ou simplement en reprenant l'activité, eh bien, les choses vont rentrer dans l'ordre?
Bon, c'est un petit peu les deux. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, lorsque l'on, Odom avait une activité sportive relativement soutenue, puisque
intensive, ouais.
C'est intensif, puisque c'était 6 jours sur 7. Mmh. Et il est évident que, à partir du moment où elle diminue cette dépense énergétique, eh bien, il va falloir essayer parallèlement d'essayer de restreindre légèrement, modérément, évidemment, l'apport énergétique alimentaire, hein, puisqu'il y a véritablement une balance là-dessus, un équilibre. Alors, il est évident que si elle tente d'avoir de l'activité physique quotidienne, ce qui est tout de même recommandé, hein, de quotidiennement avoir cette activité physique et surtout de ne pas être sédentaire, eh bien, cela va lui permettre d'augmenter sa dépense énergétique, donc de pouvoir faire ses exercices. Donc, en fait, pendant cette période de confinement, il faut restreindre, ou elle diminue son activité physique et sportive, il faut restreindre légèrement les quantités alimentaires, donc elle peut regarder sur le bol alimentaire.
Oui, mais ça c'est déjà derrière nous, Jean-Marc, là c'est elle a les petits kilos en trop dont elle veut se débarrasser, maintenant elle fait quoi?
Absolument, maintenant ce qu'elle doit faire, c'est reprendre son activité sportive, ce qu'elle tente de faire, vérifier l'équilibre alimentaire qu'elle a habituellement, manger des fruits, des légumes, enfin, on pourra revenir là-dessus.
Bien sûr.
Et puis surtout, reprendre son activité sportive, donc telle qu'elle l'a décrite. L'activité qui va être intéressante, c'est d'essayer de faire du renforcement postural dans un premier temps, c'est-à-dire essayer de renforcer les muscles qui tiennent le corps. Mm-hmm. Donc les muscles profonds, le gainage, les abdominaux, tout ça c'est très important parce que d'abord ça va permettre après de moins se blesser, et puis surtout ça renforce des muscles qui ont tendance à consommer un peu plus d'énergie au repos. Et donc ça va permettre justement de pouvoir perdre un petit peu ce poids. Et puis l'autre intérêt d'avoir les muscles du gainage, en resserrant notamment, je pense, aux muscles du transverse, c'est que ça va modifier, souvent on parle du poids, mais on parle également de la silhouette, et ça va resserrer justement la taille. Ce transverse va resserrer la taille, et ça va certainement améliorer la silhouette et donc moins gêner probablement Odom.
Et question très pratique et intéressante, hein, faire du sport avec un masque. Docteur Jean-Marc Sen, alors elle fait du sport dans un lieu fermé, cette salle de sport. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on voit aussi dans certaines rues les gens qui font du jogging bien sûr sans masque, et je dois dire qu'ils expirent puissamment. Des fois ça peut même être gênant quand on est dans la rue, qu'on croise des gens qui sont en train de nous souffler dessus.
Oui. Alors, ce qui est très important pour éviter la transmission, c'est plutôt de faire du sport à l'extérieur. Quand on est en zone couverte, évidemment, les risques de transmission augmentent. Il faut dire que, bien évidemment, le port du masque est important, mais aussi le coronavirus se transmet de manière manuportée. Et donc, le nettoyage des appareils avant et après les avoir utilisés est un autre élément qui est absolument fondamental. La chose, c'est donc de privilégier les exercices qui sont faits à l'extérieur. Mmh. Alors quand ceux-ci sont statiques, mmh. la distance évidemment est importante. Quand les exercices sont statiques à l'extérieur, eh bien 1,50 m, 2 m de distance suffit entre les personnes. En revanche, dès qu'il y a effectivement des activités de forte endurance, tel le jogging, tel le vélo, il faut augmenter cette distance qui peut aller jusqu'à, par exemple, si les gens font des exercices en groupe, qui peut aller jusqu'à 10 mètres en vélo. Parce que sinon, évidemment, il y a des risques de transmission, en tout cas possibles, en tout cas qui sont soupçonnés aujourd'hui. Donc, le conseil à dire, c'est favoriser les exercices à l'extérieur, véritablement faire attention à la partie manuportée, c'est-à-dire la désinfection des appareils et le nettoyage des mains et l'utilisation sinon de gel hydroalcoolique. Et puis, s'il y a un exercice qui est fait en endurance à l'extérieur, c'est l'augmentation des distances de sécurité jusqu'à 10 mètres, notamment pour le vélo.
Et quand on fait par exemple sur des appareils en salle de musculation, on garde le masque ?
Alors, oui,
à l'intérieur ?
Alors oui, il faut garder le masque, il faut le porter jusque sur le nez. Et puis surtout, l'élément, c'est alors le faire seul, et surtout, c'est la désinfection. Ça, c'est vraiment, même plus que le masque, c'est la désinfection du matériel avant et après utilisation.
Ça veut dire entre chaque sportif, hein, c'est essentiel de le dire.
Absolument.
Chaque sportif. Alors, on va donner tout de suite la parole à d'autres auditeurs de Priorité Santé qui attendent vos conseils.
Priorité Santé sur RFI.
Et en ligne du Sénégal, c'est Abou que l'on retrouve. Abou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes à Bignona, alors expliquez-nous ce qui vous amène. Le docteur Jean-Marc Sen est à votre écoute, allez-y.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour Abou.
Donc quand j'ai repris les entraînements au mois d'octobre, donc j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau des adducteurs. Donc, la douleur a persisté jusqu'au mois de mars. Donc, le mois de mars qui a coïncidé avec la période de confinement. Donc, j'ai arrêté le sport, mais quand j'ai repris juste après le déconfinement, c'est-à-dire au mois de juillet, donc, les douleurs ont repris. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les traitements et les moyens d'y accéder.
Alors, douleur que ressent un bout aux adducteurs. Docteur Sen, on va commencer par une petite leçon d'anatomie. Les adducteurs, ça se situe où précisément ?
Alors les adducteurs, c'est un groupe musculaire, ce sont des muscles qui sont et qui se finissent par des tendons et qui sont sur la partie intérieure des cuisses. La partie intérieure des cuisses, donc qui vont de l'aine et qui descendent jusqu'au genou. Alors ils ont une fonction, c'est de pouvoir rapprocher le membre inférieur, la jambe, la cuisse, vers la partie médiane. Donc de rapprocher, de resserrer finalement les cuisses. Alors Abou, quel est le type de sport que vous réalisez ?
Je fais du volleyball et du foot aussi.
Du foot et du volley.
D'accord. Est-ce que vous avez changé de surface ou de terrain récemment ?
Oui, récemment j'ai changé.
Vous êtes passé d'un terrain plutôt souple à un terrain dur, non ? Est-ce que c'est...
Oui,
c'est... Ah voilà. Alors ça, c'est c'est assez classique au football. Généralement, lorsque le changement de terrain est très sollicitant pour les appuis. Et ça, c'est vraiment un grand classique. C'est-à-dire que lorsque, évidemment, notamment au football, on a des changements de direction très brusques, on a un travail d'appui extrêmement important, et lorsqu'on passe d'un terrain souple à un terrain dur, cela entraîne une augmentation des contraintes sur les groupes musculaires qui servent dans ces changements de direction, notamment les adducteurs. Donc ça, c'est peut-être ou probablement une cause possible, hein, c'est, cette fois-ci on parle de technopathie, c'est-à-dire de d'environnement, c'est-à-dire c'est le terrain qui joue là-dessus. Ce qu'il faut réaliser, c'est bon, peut-être si vous avez accès à un kinésithérapeute ou bien sûr à un médecin qui peut confirmer bien évidemment le diagnostic, c'est d'effectuer des étirements et puis ensuite, alors les étirements vont être très importants, et puis ensuite un renforcement du groupe musculaire. C'est-à-dire des exercices qui vont permettre un petit peu à la fois d'étirer, d'allonger le muscle, mais aussi de le renforcer. Et puis en évitant de changer régulièrement de terrain. Il faut en fait en quelque sorte choisir le terrain que vous souhaitez faire ou rester sur du terrain souple ou sur du terrain dur. Et puis si vous avez aussi, alors au Sénégal, il n'y a peut-être pas beaucoup d'ostéopathes, mais si jamais vous avez un ostéopathe, eh bien n'hésitez pas à ce qu'il vérifie votre bassin. Cela permettra également souvent de soulager les adducteurs. Donc le conseil, c'est premièrement le terrain, essayer de prendre un terrain qui est toujours le même, de préférence un terrain souple. Deuxièmement, vous pouvez effectuer des étirements et un renforcement des adducteurs. Troisièmement, éventuellement, voir s'il y en a à proximité un ostéopathe. Et puis, ne pas hésiter, si vraiment ça persiste, à consulter un médecin pour vérifier qu'il s'agit bien d'une atteinte de ce groupe musculaire.
Merci beaucoup, merci infiniment à vous pour cet appel. On a en ligne notre deuxième invité chroniqueur, Stéphane Besançon, qu'on est ravis de retrouver. Stéphane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali, nutritionniste. Alors tout à l'heure on parlait de l'effet du confinement avec Jean-Marc sur le métabolisme, sur l'organisme, sur le corps et même sur l'allure. Justement, un impact assez variable, hein, Stéphane, de cette situation de crise sanitaire. Peut-être d'abord pour ceux qui étaient bloqués chez eux, qui ont tenté de compenser, non pas en faisant du sport, mais plutôt en faisant des petits allers-retours à la cuisine et au frigo.
Oui, alors si on regarde la situation en France, en fait, qui est un peu ce qu'on a retrouvé dans l'ensemble du monde, on s'aperçoit que quasiment une personne sur deux a pris du poids pendant le confinement dans toutes les études qui ont été faites, en moyenne 2 kg, 2,5 kg. Donc on n'est pas sur des prises de poids énormes, mais on est quand même sur des prises de poids significatives. Ça, c'est le côté, j'allais dire, négatif. Il y a quand même un côté positif, c'est que quand même les gens, bah, pour les courses, pour beaucoup de choses, sont revenus sur des circuits courts et surtout sont retournés à la cuisine pour préparer. Donc on a présenté beaucoup le côté négatif qui était la petite prise de poids, mais il faut quand même y voir un côté positif où les gens sont retournés à la cuisine, retournés préparer, repris quelques habitudes de cuisine qu'ils avaient perdues.
Quasiment des bons kilos parce qu'il y a du bon goût derrière et des bons aliments. Impact économique social, parce que ces bons aliments, ça n'a pas forcément été pour tout le monde, Stéphane Besançon, puisque certaines personnes ont pu se retrouver en difficulté financière, peut-être parfois aussi difficile d'avoir une alimentation diversifiée dans ces conditions.
Oui, alors ça a été en français, on a appelé ça dans tous les pays francophones, la fracture alimentaire, où les gens, il y a déjà les gens qui ont perdu leur travail, donc ils se sont retrouvés avec moins de moyens financiers. Il y a eu toutes les personnes âgées qui ont eu de grosses difficultés de sortir, d'aller faire leurs courses parce qu'ils avaient très peur, notamment d'être contaminés, donc qui ont fait des restrictions alimentaires. Et enfin, j'allais dire, il y a la problématique des cantines avec la fermeture des écoles, puisque pour beaucoup de gens précaires, les cantines, c'est là où les enfants peuvent manger diversifié, équilibré et de manière pas trop coûteuse. Et du coup, par rapport à ça, eh ben, ça a créé des soucis à la fois économiques, mais aussi sur l'équilibre alimentaire des enfants. Donc ça a été quelque chose de très très négatif. Les associations ont essayé de compenser ça avec les dons alimentaires, mais souvent dans beaucoup de zones géographiques, ça n'a pas suffi.
Alors on disait sport et nutrition, pilier de la prévention. Tout de suite, une question de Thomas, qui a une question justement qui s'adresse à tous les deux messieurs.
Bonjour Caroline, merci pour tout ce que vous faites pour maintenir la santé des peuples. Je suis Rundeo Kovisonen Thomas, enseignant au collège. J'ai 32 ans et je pèse 73 kg pour 1 m 70. Et malgré mes précautions alimentaires, je n'arrive pas à perdre de poids et chaque jour, mon ventre grossit. Je mange 2 fois... par jour, parfois il m'arrive de prendre des friandises dans la journée. Le soir, je mange souvent des macaronis ou du riz avec de la sauce au gras. Et dites-moi, que faut-il faire pour que je puisse réellement perdre de poids? Merci.
Alors, Thomas, 32 ans, 73,70 km, on a fait le petit calcul, on a sorti la petite machine, IMC de 25,3. Stéphane Besançon, il souhaite perdre du poids. Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie? Première question, on parle bien sûr, question santé d'un point de vue médical.
Alors, avec un IMC à 25,3, on est sur un très léger surpoids. Il faut du coup pas s'affoler de ce côté-là. Il n'y a pas un gros surpoids. Après, il nous dit bien dans sa question qu'il prend du ventre. Donc, ce qu'il faudrait en plus, c'est mesurer le tour de taille pour voir un peu si vraiment le ventre n'est pas trop proéminent, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le tour de taille qui, en termes santé, est très prédictif.
Alors, maintenant sur les... Excusez-moi, juste cette notion de poids de santé, c'est important parce que des fois on a un ressenti, on va dire quasiment psychologique, et puis à côté de ça, il y a la réalité, et il faut bien avoir en tête de ne pas vouloir aller trop loin ou aller de plus en plus loin en termes de perte de poids.
Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on dit entre l'image, c'est quelle image on veut renvoyer et quel est réellement après son impact sur la santé. On le voit dans l'anorexie par exemple, où des fois des jeunes filles vont dire je suis trop gros, je veux maigrir, alors qu'elles sont déjà très maigres en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très important. C'est pour ça que là, je dis, puis il y a le côté IMC contre tour de taille aussi. C'est-à-dire que l'IMC, l'indice de masse corporelle, va donner un aperçu général. Et des fois, on peut avoir un indice de masse corporelle, j'allais dire un corps généralement correct, et avoir effectivement de la proéminence de ventre qui peut gêner un peu esthétiquement et qui peut être un facteur de risque. Donc il y a effectivement tout ce discernement à faire pour après essayer de trouver le mieux entre son apparence et le poids santé.
Docteur Jean-Marc Sen-Thomas lui parle de ses efforts pour surveiller son alimentation, de ses difficultés, mais par contre il nous donne aucune indication sur le plan physique, pas de précision. Il est jeune, il a 32 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller puisqu'il exprime le souhait de perdre du poids? En particulier, il parle de ce petit ventre pour retrouver un ventre plus plat. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers?
Oui, alors là c'est effectivement intéressant puisque visiblement il n'a pas de surcharge pondérale. Bon, évidemment on n'a pas sa composition corporelle, mais visiblement il ne doit pas être obèse. Et donc il y a certainement, si le ventre ressort, c'est qu'il y a un relâchement des muscles qui maintiennent les viscères. Alors ça c'est très important, et souvent quand on dit qu'on prend du poids, les personnes en fait parlent de leur silhouette, d'où l'intérêt effectivement du tour de taille. Alors dans ces muscles qui retiennent les viscères, eh bien il existe bien sûr les muscles abdominaux, les obliques, les muscles transverses. Ce muscle, c'est un muscle très profond, qui est le plus profond de la paroi abdominale, et en fait qu'on peut renforcer par des exercices effectivement qui vont bien évidemment jouer avec la respiration. On doit avoir cette impression qu'on absorbe son nombril. Lorsque l'on va faire les exercices, on va avoir l'impression qu'on absorbe son nombril, on rentre le ventre véritablement et on gaine ce ventre alors qu'on va faire des exercices. Alors qu'on va faire des abdominaux, alors qu'on va faire des exercices bien sûr du haut, du bas du corps, il va falloir véritablement comme ça resserrer ce muscle transverse. C'est la meilleure façon de le faire, c'est vraiment d'avoir cette impression que le nombril rentre à l'intérieur. Et tout ça, c'est un travail qui peut se faire avec la respiration. Et si on renforce ce muscle, particulièrement le transverse, c'est très important pour ça, mais également tous les muscles de la paroi abdominale et les muscles lombaires, eh bien on va voir son tour de taille diminuer, véritablement diminuer, parce que tout simplement on va mieux contenir l'intérieur de l'abdomen. Et donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant d'un point de vue exercice physique adapté pour pouvoir répondre finalement à cette demande de ventre qui ballonne un petit peu. Effectivement, Stéphane l'a bien dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée plus objective d'une réelle surcharge pondérale, en mesurant la masse grasse, ou plus de manière plus simple évidemment le tour de taille, pour pouvoir avoir cette idée.
Voilà pour cette réponse à Thomas. Changer certaines habitudes, prendre le rythme, le bon tempo pour s'alimenter. On retrouve le Sénégal tout de suite avec Coli en ligne. Coli, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Ziguinchor. On écoute votre question tout de suite, allez-y.
En fait, moi je voulais savoir s'il est bien de faire du sport lorsqu'on est en jeûne.
À jeun, c'est ce que vous faites, vous pratiquez une activité physique sans avoir rien avalé?
Oui, même durant la période du ramadan.
Et en dehors de la période du ramadan, vous mangez quand même quelque chose avant d'aller faire du sport?
Non, non. Le plus souvent, je fais du sport le matin, des abdos, sans avoir mangé quelque chose.
Et cette petite question, Koli, pourquoi est-ce que vous faites ça?
Parce que j'en avais discuté avec un copain, il m'a dit que ce n'était pas bien.
De manger avant?
Ouais.
Docteur Jean-Marc Sen, est-ce que le copain de Koli a raison ou qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, alors en fait, que se passe-t-il lorsque l'on fait de l'exercice et que l'on est à jeun? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va puiser, on va modifier un petit peu la sollicitation métabolique de l'exercice et on va directement puiser dans les graisses. Mais pas seulement, on va puiser dans les graisses et on va avoir tendance à puiser un petit également dans la masse musculaire. Autrement dit, si on ne fait que des exercices à jeun, eh bien, c'est effectivement, si on veut perdre du gras, c'est intéressant parce qu'on va commencer à puiser dans le gras, mais on va puiser également dans la masse musculaire.
On perd de la force aussi.
Donc on va perdre de la masse musculaire et on risque de perdre de la force. Et donc le problème, c'est si on fait ça de manière très fréquente et régulière. Alors il peut y avoir aussi, quelquefois bien sûr, si on le fait de manière excessive, on peut faire aussi même quelquefois des hypoglycémies, c'est-à-dire des malaises pendant l'exercice. Et donc c'est quelque chose dont il faut avoir évidemment l'habitude et qu'il faut faire de manière très modérée. L'autre chose, donc le fait de faire de l'exercice uniquement à jeun, en soi n'a pas d'intérêt particulier si le but c'est d'entretenir sa condition physique. Hein. Alors, y a une question aussi qui était intéressante, qui était de dire la personne fait du sport à jeun en période du Ramadan. Mm-hmm. Effectivement, en période du Ramadan, ben, le choix doit se faire de dire si la personne pratique le Ramadan, évidemment, de faire l'exercice ou très tôt le matin après avoir fait un repas éventuellement, hein, ou alors juste avant. Évidemment la rupture du jeûne le soir.
En tout cas, il ne faut pas le faire après une longue période de jeûne. Par exemple, on imagine le lever du soleil, s'il est 14-15 heures, hors de question de faire du sport à ce moment-là. Là, on va aller voir les papillons dans les yeux.
Alors, si on fait du sport de manière de manière très intensive, alors qu'on n'a pas d'hydratation et ça, il peut y avoir véritablement des risques. Et donc, il est évidemment des risques de malaise, de mauvaise hydratation, d'hypoglycémie, voilà, de baisse de force musculaire. Ça, ce sont les risques qu'il y a si on n'apporte pas, évidemment, pendant un exercice physique, une hydratation ou des nutriments.
Stéphane Besançon, peut-être, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane Besançon, sur ce côté jeûne et activité physique avec la possibilité d'un risque de malaise?
Oui, alors sur la période du Ramadan notamment, comme l'a dit Jean-Marc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur le terrain en Afrique de l'Ouest, surtout comme cette année, quand le Ramadan arrive en pleine saison très chaude, où le problème vient même pratiquement plus de l'hydratation, où les gens font des malaises ou peuvent aller des choses très graves parce qu'ils n'ont pas bu depuis un moment, ils essayent de pousser une activité très forte, et là il y a des vrais gros soucis, chaleur, déshydratation, etc. Donc il faut vraiment faire très attention au moment du Ramadan pour trouver les bonnes périodes pour faire de l'activité physique et absolument éviter ceci et éviter les risques de déshydratation et qui sont tous les risques santé qui vont être liés à cette déshydratation. Ça me semble très très important.
Est-ce que cette réponse vous convient, Koli?
Oui, ça me convient très bien.
Donc merci. Vous prenez quand même quelque chose avant de faire du sport, hein, vous avez compris, hein?
Oui.
D'accord. Très bonne journée à vous, Azi Guinchor.
RFI à Ziguinchor, 87.6 FM.
Et c'est à présent la Côte d'Ivoire que l'on rejoint à Abidjan avec en ligne Mathieu. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, RFI.
Alors Mathieu, Stéphane Besançon et le docteur Sen sont à votre écoute, allez-y.
Ok. Ça fait maintenant environ 3 ans, j'ai un souci au niveau de ma hanche. Donc j'ai une douleur, en quelque sorte, je ne sais pas qu'il faut appeler ça, une douleur ou bien, vous voyez, quand vous êtes fatigué, ce que vous ressentez, c'est comme ça, du haut, depuis la hanche jusqu'au bas du pied. Mais quand je fournis des efforts, que je marche un temps soit peu, je commence à ne plus rien ressentir depuis les fesses jusqu'au gros pouce. Voilà.
Ça ressemble à des crampes ou ça ressemble à un... Il y a beaucoup de circulation derrière vous. Ça ressemble à des crampes ou à un engourdissement?
Un engourdissement plutôt.
D'accord. Et ça, ça dure depuis 3 ans. Vous avez consulté? Vous avez passé des examens?
Oui, j'ai passé des examens. J'ai fait une radiographie. Et puis, bon, il y a un autre truc. Bon, comme moi, je ne maîtrise pas les noms, je suis allé, bon, c'est un appareillage. Je vais essayer de regarder si le sang circule bien ou pas. Mais bon, après, on m'a dit que tout était normal. Jusqu'à présent, on n'a pas pu me dire concrètement ce qui ne va pas.
Alors, on voit que le trafic à Abidjan, c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. On entend derrière vous ces klaxons qui viennent nous embêter sur RFI. Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Jean-Marc Sen, à Mathieu? 3 ans à souffrir de la jambe, c'est quand même beaucoup trop long. Hein.
Oui, c'est effectivement long et il a forcément quelque chose s'il souffre comme ça depuis si longtemps. J'imagine la région qu'il décrit de la hanche, est-ce que ça correspond à une douleur qui part de la fesse et qui descend comme ça dans la jambe, ou alors c'est plutôt devant la hanche et ça descend jusqu'au gros orteil?
Est-ce que vous pouvez nous dire, Mathieu, comment est localisée la douleur? Ça part plutôt par derrière ou c'est plutôt sur l'avant de la cuisse?
Ça part derrière.
Derrière.
Alors, ce que ça évoque, évidemment, on peut pas faire de diagnostic par téléphone, mais ça évoque une douleur d'un nerf. Il y a un nerf qui s'appelle le nerf sciatique, qui part comme ça du dos, qui passe par la fesse, derrière la cuisse, la jambe, et puis ensuite va à l'extrémité jusqu'au gros orteil, et lorsqu'il est irrité, eh bien, on dit que c'est une douleur de type sciatique ou sciatalgie, de type sciatique, qui ressemble un petit peu à ce que vous décrivez. Alors, encore une fois, il faut consulter un médecin pour vérifier cela. La région, dans ces cas-là, qu'il faut absolument étudier, c'est la région du dos, parce que c'est de là que part le nerf. Donc, si vous avez fait une radio de la hanche, c'est normal qu'on ne voit rien, s'il s'agit d'une sciatique, il faut aller faire une radio du dos, du rachis lombaire.
Voilà. Monter plus haut pour trouver l'origine du problème.
D'accord.
Donc c'est le conseil, consulter, parce qu'on peut pas rester comme ça en souffrant, surtout ne pas s'habituer aux antidouleurs parce que c'est pas du tout la solution. Rechercher l'origine et puis après voir ce qu'on peut faire en termes de rééducation et de prise en charge. On vous souhaite une excellente journée à Abidjan, Mathieu. Se fixer des objectifs, on a vu tout à l'heure, hein, pour beaucoup d'auditeurs, c'est important de parler de l'allure. On veut se muscler, mais en même temps se sentir bien dans sa peau. On va tout de suite donner la parole à Nicéphore qui est en ligne du Tchad.
Bonjour la RFI, bonjour Priorité Santé, bonjour à Caroline et son invité. Je me prénomme Nicéphore depuis la capitale économique du Tchad. J'ai 20 ans. En fait, je suis un habitué des exercices d'abdominaux de type grince et aussi de gainage comme la planche. Alors, au lieu d'avoir mes abdominaux bien dessinés, je me retrouve toujours avec un ventre gonflé. Et je me demande ce qui est à l'origine. C'était juste ma question. Merci pour la confiance accordée, pour la participation à cette émission Priorité Santé. Bonne journée.
Docteur Sen, nos auditeurs qui ont un problème avec leur petit ventre dodu apparemment, qu'est-ce qu'on peut dire à Nicéphore qui, malgré ses efforts, hein, il fait des exercices? Peut-être que la question c'est savoir, est-ce que les exercices qu'il fait sont les bons? Dans le message qu'il nous a envoyé, il nous parle d'exercices de type crunch. De quoi s'agit-il?
Oui, alors effectivement, les exercices de type crunch, c'est les relevés finalement du tronc, hein, qui vont s'opérer. Et là, il y a deux choses. Parce que ce que j'aimerais, c'est avoir des abdominaux bien dessinés. Pour avoir les abdominaux bien dessinés, il faut deux choses. Il faut, un, premièrement, avoir des muscles, bien évidemment, qu'on renforce, et deuxièmement, ne pas avoir trop de gras, parce que sinon, on ne les voit pas, ces muscles. Alors, pour avoir les muscles renforcés, est-ce qu'il fait effectivement les bons exercices? Il y a plusieurs erreurs possibles. C'est premièrement, pas à mobiliser le transverse tel qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire absorber le nombril et gainer avant de faire les abdominaux, ça c'est nécessaire. Et deuxièmement, c'est quelquefois on sollicite un autre muscle qui s'appelle le psoas, parce qu'on accroche ses pieds au sol et on cède des fléchisseurs de hanches, c'est-à-dire qu'en ayant les pieds accrochés au sol, on utilise d'autres muscles que les abdominaux pour se relever, et du coup on les travaille pas et on les renforce pas. Et la deuxième axe qu'il doit travailler, c'est son alimentation. S'il a un panicule graisseux au-dessus de ses muscles, eh ben on les verra pas, hein, tout simplement parce que évidemment ils seront pas saillants. Donc voilà, c'est les deux choses à faire.
Panicule, c'est quoi en langage courant? C'est un petit bourrelet,
un bourrelet. Un petit bourrelet, voilà, c'est ça.
On va pas aller jusqu'au pneu, mais vous avez exagéré avec ce mot de panicule. Vous m'avez tendu la perche, c'est pas possible. Donc ça veut dire un petit bourrelet. Moi c'est j'ai ça. Une question qui est pas directement liée à cette question de Nicéphore, mais c'est au Mali, à Bamako, Papy qui demande est-ce que quelqu'un qui a du diabète peut faire du sport? Si oui, comment doit-il l'aborder? Et ce n'est pas au médecin du sport que je pose la question, mais c'est à Stéphane Besançon, parce que les mesures pour les personnes qui sont en train de souffrir de diabète, eh bien vous connaissez parfaitement ça. Vous, dans votre association, vraiment, l'activité physique, c'est quelque chose que vous recommandez absolument.
Oui, alors dans la prise en charge du diabète, ça fait partie du traitement intégrant, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'alimentation d'un côté, l'activité physique de l'autre. Maintenant, là où il faut être très clair, c'est qu'on a pour un patient, une personne qui est atteinte de diabète, on appelle ça de l'activité physique adaptée pour tenir compte de sa pathologie. Donc c'est très très important d'avoir un avis médical qui va être à la fois pour le type de traitement et le type d'activité physique, la longueur, les questions d'hydratation dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les questions cardiaques, puisque des gens peuvent avoir des complications cardiaques liées à leur diabète, donc il faut bien surveiller et savoir quelle activité faire et bien l'associer à ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est notamment en Afrique, le pied diabétique est une complication très très importante, des plaies, etc. Donc là aussi, il faut faire très attention de ne pas blesser ses pieds plus. Donc là aussi, il faut prendre des conseils pour de nouveau avoir à la fois la bonne activité physique, mais aussi, ce qui est très important, j'allais dire, les bons outils pour la faire, c'est-à-dire les bonnes chaussures, les bonnes choses comme ça, pour justement préserver aussi ses pieds. Donc c'est vraiment central. L'activité physique est centrale pour les personnes atteintes de diabète, mais avec un avis médical pour être sûr de bien l'adapter et pas qu'elle soit contre-productive, voire dangereuse. Par exemple, si quelqu'un a une complication cardiaque et qu'il va faire une activité très agressive, là, il y a un risque. Pareil pour le pied, si quelqu'un a une plaie et qu'il va faire du sport avec des mauvaises chaussures, il peut là aussi renforcer sa blessure. Donc c'est très important cette notion-là, mais c'est central pour le diabète de faire de l'activité physique, c'est absolument une partie intégrante du traitement.
Activité en concertation, donc on l'a bien compris, avec son médecin. Docteur Jean-Marc Sen, j'ai un petit pêle-mêle de questions qui peuvent parfois paraître saugrenues, mais néanmoins très intéressantes. On a cette question sur l'hygiène après le sport. C'est parfait, qui est à Bangui qui demande. Après un effort intensif, un effort sportif, est-ce qu'il faut prendre une douche chaude ou froide?
Ah bon, alors une tiède. Donc il y a pas, il y a rien qui est, il y a rien qui est démontré pour dire qu'il est préférable de prendre une douche chaude ou froide. Le seul conseil, c'est le retour au calme, c'est-à-dire pas prendre une douche immédiatement après l'effort, mais attendre au moins une quinzaine de minutes. Surtout si on est sportif de haut niveau et qu'on fait du sport de manière très régulière, il y a eu des études qui ont montré, par exemple, qu'on avait même des petites pertes hormonales par la sueur, et donc que si on prenait, qui était ensuite réabsorbé par la peau, et que si on prenait comme ça des douches très rapidement, eh bien on avait comme ça des dérèglements possibles. Donc, bien sûr, le retour au calme, et puis après 15-20 minutes, on peut prendre sa douche, bon, tiède, chaude ou froide, selon sa préférence. Mais attention aux douches très froides juste après l'effort, on peut aussi favoriser les malaises vagaux, un malaise vagal, et donc c'est pas...
Faut y aller doucement. Autre question, ouais. Là, c'est Mort qui demande, comment bien récupérer après un entraînement très physique, particulièrement après un match de foot?
Alors, pour la récupération, c'est la restauration de ses capacités. Il faut se réhydrater, boire une boisson de récupération dans l'heure qui suit, évidemment, cet effort. Il faut faire le retour au calme. Il faut tenter de faire des étirements légers, bien évidemment, juste après. Et puis, éviter de faire un effort trop intensif dans les 3 jours qui suivent pour pouvoir laisser, bien sûr, l'organisme parfaitement récupérer. Le sommeil également fait partie de la récupération. Et une bonne alimentation, un repas varié, équilibré dans les heures qui viennent et le lendemain, ils sont également importants.
Il y a une autre question d'auditeur sur l'après-sport. C'est Altès qui nous écoute à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et qui a cette question à poser. On l'écoute.
Bonjour RFI, je réponds au nom d'Altès et je suis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. J'avais une plainte à adresser à votre invité. Voilà, à chaque fois que je fais une activité sportive, donc pendant et surtout après que j'ai fini de faire, j'ai souvent des vertiges qui s'accompagnent avec des pertes de vision. Je vois un peu flou. Et sur ce, il faut que je reste un peu quelques temps sans bouger ou que je garde les yeux fermés quelque part en me reposant pendant quelques minutes avant que ça ne puisse se rétablir. L'activité sportive que je fais, donc, je m'allonge sur un petit banc sur lequel je soulève un poids de fer. Donc, je fais la musculation, et voilà.
Alors, vertige après la musculation, docteur Jean-Marc Sen, qu'est-ce qu'on peut dire à Altès?
Bon, un, ce n'est pas normal. Donc, comme ce n'est pas normal, il va falloir consulter pour pouvoir connaître la cause de ce vertige. Il y a plusieurs causes possibles qui peuvent venir, bien sûr, de l'oreille interne, qui peuvent venir aussi d'une variation de la tension artérielle. Donc, tout ça, en fait, il faut... C'est évidemment impossible de faire le diagnostic par téléphone, mais il faut absolument consulter puisque ce n'est pas normal, évidemment, d'avoir des vertiges après cet effort. Vérifier, évidemment, que l'effort est d'intensité correcte, n'est pas excessif. Ça sera aussi nécessaire. Donc, là, vraiment, le meilleur conseil à faire, c'est vraiment de consulter pour rechercher d'autres signes éventuellement et puis arriver à expliquer pourquoi est-ce qu'il a ces vertiges.
Pour se débarrasser de ces malaises. Alors, d'autres conseils avec un autre auditeur en ligne de Conakry. C'est vous, Eladj, bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour à tous.
Alors, on vous écoute. Racontez-nous.
Alors, bonjour. Comme je le disais dans mon écrit, en fait, moi, je me suis marié il y a environ 3 mois maintenant. Et avant le mariage, j'avais autour de 68 kilos comme poids sur une taille de 1m70. Et là, après, bon, bien avant le mariage, il y a juste un mois avant, je travaillais à partir de la maison. Donc, je faisais beaucoup de sédentarité. Entre temps, je me suis marié, j'ai pris mes congés. Au boulot aussi, je suis resté à la maison près de moi. Je suis allé à l'intérieur du pays, je suis revenu. Mais là, j'ai repris le boulot, je me suis rendu compte que j'ai pris énormément de poids, autour de 10 kilos, en moins de 4 mois, et ce qui m'inquiète beaucoup. Je me suis remis un peu au sport. Et puis, j'essaie aussi d'agir sur mon alimentation, là, mais je n'y arrive pas vraiment avec mon emploi de temps au boulot et tout. Je n'ai pas assez de temps pour le sport. Donc, avec vos deux invités, j'aimerais savoir, premièrement, quelle alimentation est-ce qu'il faudrait mettre en place pour perdre du poids et aussi quelle méthodologie pour le sport, surtout faire un peu de sport sur juste les week-ends, histoire de perdre un peu plus de kilos.
Aujourd'hui, Elad, c'est quoi votre alimentation?
Actuellement, ce que je fais, quand j'arrive au bureau le matin, j'essaie de prendre un bout de pain avec du fromage et du thé sans sucre. Il faut noter que j'ai éliminé carrément le sucre sur mon alimentation il y a un moment. Et puis, à midi, je ne mange pas. Je prends juste aussi une tasse de thé. Et arrivé à la maison, le soir, vers 17h30, 18h, j'essaie de manger un peu de riz avec généralement des choses de feuilles ou de la soupe. Et voilà. Et puis, accompagné aussi d'une tasse de thé. Parce que je fais ça souvent pour histoire d'avoir un métabolisme régulier. Mais voilà.
Le riz, les sauces dont vous parlez, elles sont riches? Elles sont comment?
Pas tout à fait. Généralement, c'est du riz importé. Ben, c'est pas le riz de pays qu'on mange. Et la sauce, elle est plus ou moins riche parce qu'il y a des légumes dedans qu'on met. Donc, c'est un peu ça.
Et vous buvez des sodas? Vous grignotez?
Non, les sodas, je touche pas du tout. Je grignote pas. Je prends plutôt du thé. Ça, je prends régulièrement. Il m'arrive des fois de prendre 3 tasses dans la journée, mais je touche pas à soda.
Et j'entends pas, j'ai pas entendu de Stéphane Besançon, j'imagine que vous suivez avec moi, j'ai pas entendu parler de légumes ni de fruits dans cette alimentation.
Pardon, je vais revenir. En fait, ce que j'ai dit, dans la sauce que je prends le soir, il y a des légumes dedans. Et personnellement, après le repas, je prends au moins une pomme dans la soirée avant de dormir. Donc je fais ça, et quelquefois des jurons aussi. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut réduire la quantité du riz ou est-ce que c'est la sauce? Je ne comprends pas pourquoi je prends autant de poids. Il faut noter que je suis de nature quand même à prendre du poids très vite, si je me laisse aller. Mais là, c'est un peu trop.
Stéphane?
Alors, je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est déjà essayer de changer le soir et le midi, c'est-à-dire de ne pas manger le midi, de sauter le repas et de manger à 18h, quelque chose d'assez lourd, un riz en sauce et tout. Peut-être d'essayer de passer le riz en sauce le midi et d'avoir quelque chose, une salade ou quelque chose d'assez léger le soir. Déjà de faire cette inversion. Et la deuxième chose à regarder, à mon avis, c'est la quantité de riz et la qualité de la sauce en termes d'huile. Parce que souvent, on a beaucoup de gens, de patients qui viennent avec cette demande en disant « je comprends pas ». Et en fait, quand ils regardent la quantité d'huile qu'ils achètent et du coup la quantité d'huile qui est additionnée dans la sauce, c'est souvent colossal en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de regarder. L'assiette, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est pas l'assiette de riz de 400 grammes bondée là qui fait un gros tas, il faut une assiette rase. et y aller petit à petit, parce que si vous passez de 400 grammes à 200 grammes, vous allez mourir de faim. Donc descendre, la descendre progressivement sur 3 semaines, 1 mois pour habituer à manger un peu moins et vraiment aller vers l'assiette plate. Et la deuxième chose, c'est vraiment de regarder avec la personne qui prépare, c'est chez vous, la quantité d'huile qu'elle met. Et pour ça, vous pouvez aussi recomparer ça avec la quantité d'huile que vous achetez. Mmh. Et vous allez voir que des fois, les quantités sont complètement colossales et que là vient un gros problème. Donc, essayez de changer la base céréalière un peu lourde, la passer le midi, et une salade ou quelque chose avec la pomme là et le thé très bien le soir. Et la deuxième chose, réduire la quantité de riz et surtout vérifier le gras, ça va être la sauce arachide et ça va être toute l'huile qui va être ajoutée en plus qui peuvent amener des quantités de calories très très importantes.
Donc une assiette moins remplie et très certainement, docteur Jean-Marc Sen, une activité physique. Eladj, aujourd'hui, pour parler vrai, après cette assiette bombée, on a bien compris quand vous avez ri que ça vous disait quelque chose. Côté sport, vous faites quoi concrètement ?
Voilà, merci d'abord pour l'intervention précédente. En fait, oui. Par rapport à l'assiette, il faut noter que je suis médecin de formation. J'essaie vraiment de ne pas manger beaucoup de riz en termes de quantité. Je touche vraiment pas beaucoup. C'est ce qui, en fait, pose vraiment le problème dans ma tête, parce que la quantité, ce n'est pas ça du tout le problème. Mais je me demande réellement d'où vient le problème. Et en termes pour revenir sur l'activité sportive, ce que je faisais avant, c'est que avec le temps que j'ai, généralement les matins quand je me réveille avant de me doucher, je fais des abdos autour de 50-60 comme ça avant de sortir. Et le soir, je fais pareil. Mais là, je me suis remis au sport. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de douleurs au niveau des jambes et tout. Mais là, le week-end, ce dernier week-end, je suis allé quand même, j'ai pu faire beaucoup. J'ai fait près de 2 heures de temps de sport. J'ai pas eu beaucoup de douleurs. Et je compte continuer comme ça. Mais je voudrais avoir des astuces. Il y a des astuces, évidemment.
Docteur Sen, je vous donne la parole parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un mystère, Eladj. Il mange peu, il fait du sport, il grossit. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Alors, effectivement, l'activité sportive, c'est bien d'ailleurs de faire les abdos, le gainage en premier. Et puis, il faudra, dès que ce sera possible, rajouter des activités d'endurance et de renforcement. N'oublions pas que l'endurance permet bien sûr de maîtriser la masse graisseuse, mais le renforcement musculaire aussi, parce que le muscle brûle la graisse au repos. Il faut aussi rajouter de l'activité dans la vie de tous les jours, se déplacer le plus possible à pied, autant que faire se peut, bien évidemment. Et puis, l'autre élément peut-être à vérifier, évidemment, c'est sur le plan biologique, être sûr, bien évidemment, que Eladj n'a pas de pathologie particulière, vérifier, puisqu'il est médecin, vérifier sa thyroïde notamment, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème qui l'empêche, évidemment, médical, en tout cas, qui l'empêche de perdre du poids.
Et puis, qu'il puisse expliquer ce qu'il nous a décrit. Merci beaucoup, Eladj. On lui souhaite une excellente journée. Et merci, bien sûr, à tous les deux d'avoir une nouvelle fois conseillé nos auditeurs avec autant de précision. Docteur Jean-Marc Sen, Stéphane Besançon. On se retrouve très, très bientôt, le lundi ou le mardi, dans notre émission pour vos chroniques sport et nutrition. Et merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Demain, émission consacrée aux rêves. Pourquoi est-ce que nous rêvons ? Pourquoi certains rêves se répètent-ils ? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains. Et le masque, c'est très bien aussi.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.